Kouai aux membres du peuple Wabanaki qui nous écoutent. Salut, je me présente Louis-Philippe Renaud. Je sais pas pour vous, mais moi, j'aime la vie. Plus j'apprends à la découvrir, plus je suis touché par sa beauté, par sa fragilité. Je réalise ce balado parce que j'ai envie d'aller à la rencontre de personnes qui ont le goût, comme moi, d'en prendre soin. Bienvenue à Juste pour vivre. Commençons par souligner que nous sommes ici pour parler de la relation au vivant sur le territoire non cédé de la communauté autochtone Wabanaki. Surtout et tout simplement parce que les Premières Nations ont saisi bien avant nous l'importance de cette relation. Alors, salutations aux gens qui nous écoutent. Aujourd'hui, on a une belle émission qui devrait susciter l'intérêt parce qu'on va parler de ce qui est souhaitable avec deux magnifiques invités que je vais vous présenter tranquillement. D'abord, Héloïse Cabral, qui est une de mes bonnes amies avec Jacob. Héloïse, toi, j'ai reçu un petit message de ton amoureux qui j'ai demandé de te présenter parce que je trouve que c'est vraiment sympathique. Il m'a dit « Héloïse est finissante au baccalauréat en études politiques appliquées à l'Université de Sherbrooke, citoyenne éclairée et critique de 28 ans. Elle est une éco-anxieuse de la première heure, ayant grandi dans une famille où la protection de l'environnement et la sobriété sont des valeurs fortes. Sensible au vivant et adhérente au principe de la décroissance, elle étudie à temps partiel pour s'assurer un bon équilibre de santé mentale et avoir le temps de découvrir des savoir-faire. Comme beaucoup de gens dans sa communauté, elle explore sa version personnelle de la résilience. » Allô, Héloïse.
Bonjour.
Merci d'être là.
Merci à toi.
Comment ça va?
Ça va bien.
J'ai aussi avec moi Jacob Buisson. Merci d'être là, Jacob. Toi, tu as fait un bac en environnement de 2018 à 2021 et tu as pris aussi un petit congé, mais tu as aussi fait un micro-programme en changement climatique en 2022, c'est ça? Mm-hmm. Tu as fait une maîtrise en politique appliquée qui a débuté en 2023 et tu es impliqué dans au moins 4 comités environnement durant ton bac. Pendant sa pause d'études, tu as cultivé des légumes sur une ferme puis au jardin d'autosuffisance.
Oui, en effet, dans un jardin d'autosuffisance au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
C'est magnifique.
Oui.
Comment ça va, Jacob?
Ça va très bien, merci.
Est-ce que vous êtes prêt à relever quand même un bon défi aujourd'hui? J'ai eu envie, avec les auditeurs, pour commencer le balado, de faire une espèce de portrait actuel, on va dire, du monde réel, parce qu'on entend beaucoup de choses sur la biodiversité. J'imagine qu'un peu comme moi, vous êtes des fois un peu estomaqué de la manière dont le récit nous est diffusé de l'état du monde. Je sais qu'on ne veut pas générer de co-anxiété, mais je pense que c'est important d'avoir l'heure juste. Et on va se donner le défi aujourd'hui en plus, à part de donner l'heure juste, de donner des pistes de souhaitables. C'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, j'ai envie, parce que c'est très important de comprendre ces enjeux-là, de faire une espèce de mise au point avec toi, Héloïse, peut-être commencer. Je sais que tu as préparé des petites choses pour nous sur la transition énergétique, parce que c'est essentiel. Est-ce que tu as envie de nous faire un petit portrait pour commencer de la transition énergétique actuelle?
Oui, mais en fait, c'est des termes qui sont beaucoup employés, là. C'est très, très en vogue. Puis là, ben, c'est sûr que c'est un peu un aparté par rapport au thème de la biodiversité, là. C'est sûr que tu sais, il y a clairement une interdépendance entre tous les thèmes reliés à l'environnement. Parce que qui dit source d'énergie dit généralement couper des forêts, extraire dans des mines, exploiter des puits de pétrole, etc. Mais bon, donc ce qui a nécessairement un impact sur la biodiversité. Mais oui, en fait, la transition énergétique, là, c'est devenu le nouveau dada, en fait, de se dire, bon, on misait sur le développement durable, mais là, finalement, on se rend compte que, on veut continuer à se développer, mais nos émissions de gaz à effet de serre ne plafonnent pas comme on pensait. Puis en fait, il y a Jean-Baptiste Fressas, qui est un philosophe, il me semble.
C'est un historien. C'est un historien des sciences, en fait.
Voilà, c'est ça. Puis il a écrit un livre récemment publié qui s'appelle « Sans transition ». Donc c'est plutôt lui, il aborde la non-transition énergétique parce que historiquement, il n'y a jamais vraiment eu de transition énergétique comme telle. Puis aujourd'hui, on l'entend vraiment comme délaisser une forme d'énergie qui est considérée soit trop coûteuse, peu efficace, trop polluante. Donc, délaisser celle-là pour une autre. Fait que là, on essaye de remplacer, disons, le pétrole. On essaie de sortir des énergies fossiles pour aller vers d'autres sources d'énergie considérées « vertes », entre gros guillemets. Bref, ce qu'il nous dit, sa thèse, c'est qu'au contraire, historiquement, la découverte de nouvelles sources d'énergie n'ont fait que s'additionner. Ce qui veut dire que, essentiellement, quand on a découvert le pétrole, ça n'a pas remplacé le charbon comme on aime le croire, comme on nous l'a raconté. En fait, ça s'est simplement additionné et même ça a créé ce qu'on appelle un effet rebond. Donc, je vais y revenir plus tard. Mais un des exemples qu'il donne, qui est quand même assez parlant, c'est le charbon. On s'imagine que c'est une énergie du passé.
Ben oui, c'est fini ça, le charbon?
Ben oui, c'est fini. Hein? Sauf que c'est drôle parce que à la dernière COP, en fait pas la dernière, mais la COP 27, on dit « Ah, ouais, il faudrait peut-être limiter l'utilisation du charbon parce que le charbon n'a jamais arrêté d'être utilisé et est à son paroxysme en ce moment, là, clairement. »
Et finalement, c'est même pas le phase down qui a été accepté, phase down, pas le phase out of coal.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Donc, on va pas complètement arrêter d'utiliser du charbon, mais on va essayer de réduire.
Oui, du moins, à la COP 27, c'était l'entente et il y avait quand même une grande déception au niveau international.
Juste pour COP 27, ça, c'est la rencontre des gouvernements, juste pour être sûr que tout le monde nous suit.
Oui,
là.
La Conference of Parties 27, donc, qui ont commencé, il me semble, Jacob, tu me diras, mais avec le protocole de Kyoto. Donc, en 95, c'est pas 94 ou 92? Bon, bref. Mes notions d'histoire sont à revoir. Mais donc voilà, le charbon, en fait, pour y revenir, on s'imagine que c'est une énergie de l'ancien temps, mais vraiment pas. En fait, c'est une énergie qui sert actuellement à extraire ou produire d'autres formes d'énergie, comme il y a énormément d'électricité dans le monde qui est produite à partir de la combustion, en fait. Un autre exemple qu'il donne, c'est qu'avant de brûler du charbon, on brûlait du bois. Puis là, on s'est rendu compte, crème, il y a des gisements de charbon. On aurait pu, tu sais, on pourrait décider d'arrêter complètement de couper des arbres. Ce serait vraiment génial. Mais non, parce que les mines de charbon, ils demandent d'avoir des charpentes, des structures qui sont faites en bois. Donc, ce qui ressort, c'est vraiment là, cet effet de... On se dit, ah, crème, il y a une nouvelle source d'énergie beaucoup plus efficace... Bien, ultimement, on ne va pas complètement délaisser l'autre forme d'énergie. On va juste les additionner.
Une propulse haute, en fait. C'est ça, les fameuses structures, tu parlais que j'ai appris le mot, c'est des étais, en fait, je ne savais pas.
Oui, c'est
mais
vrai.
Mais ils viennent propulser l'autre parce qu'ils permettent aux énergies suivantes de prendre l'ampleur qu'on veut leur donner pour aller... au début, on pense que ça va remplacer, mais ils s'accumulent l'une sur l'autre. Je pense que Jean-Baptiste, dans son livre, il démontre très bien à quel point que chacune a fait ça, c'est ça?
Exactement, puis c'est pas nouveau, là. On les voit dans les courbes d'utilisation. La même chose est en train de se produire avec les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, tout ça, c'est bien, et leur proportion est en train de s'accroître, mais c'est en train de simplement se rajouter sur le monticule de toutes les formes d'énergie qu'on est capable d'aller chercher.
Je pense que ça vaut la peine de le dire. Concrètement, il n'y a jamais eu autant de charbon qui est consommé qu'aujourd'hui. Oui,
et même chose pour le pétrole.
Même chose pour tout. Alors, si je comprends bien, toutes les énergies qu'on nous dit qu'on est en train de développer, qui sont renouvelables, ne sont pas nécessairement... En fait, ils ne sont pas vraiment utilisés pour qu'il y ait au total une forme de sobriété. Là. Il n'y a pas de logique de « on réduit au total ».
Exact. On n'est pas en train de transitionner énergétiquement, on est en train d'additionner énergétiquement, on est en train de grossir notre capacité. Puis, ben, ça mène justement à parler de l'effet rebond, en fait. Ça part d'une notion du vocabulaire économique. Je vais passer sur les détails, mais essentiellement, là, le principe est le même. Quand on l'applique à l'écologie, pardon, et... entre autres à la consommation d'énergie. L'effet rebond, c'est ce qui caractérise un effet pervers et paradoxal des progrès en matière d'efficacité énergétique. J'explique. Donc, quand on réussit à économiser l'énergie, là, ça ne veut pas dire qu'on va réussir à moins consommer. Donc, ce qu'on va avoir fait comme gain énergétique en allant chercher, mettons, une énergie plus efficace, mais en fait, on va avoir tendance à se dire, ah ben, c'est une énergie qui est meilleure, qui est moins polluante, etc. Donc, ultimement, on va se ramasser en consommer plus. Parce qu'on se dit qu'elle est moins pire, tu sais.
J'aime bien l'exemple de la maison dans ce temps-là. On réduit, on va rendre notre maison plus efficace énergétiquement. Mais là, on a gagné des sous, on a économisé. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec notre économie? Si on réinvestit nos économies, mais qu'ils rejettent du GES, comme partir, mettons, en voyage dans le sud, mais il n'y a pas de gain. Au final, on a toujours produit autant de GES, sinon plus, c'est ça.
Mm-hmm. Exact, oui.
Mais ça, c'est intéressant parce que là, on se rend compte que, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Jacob, mais c'est comme si on a beaucoup de bonne volonté, en fait, où on s'imagine, nous, les citoyens, qu'on a énormément, beaucoup de bonne volonté collectivement pour, avec ces énergies vertes-là, aller vers une réduction, mais ça ne se fait pas. Est-ce que, quelque part, c'est un système qui est gourmand ou comment que ça se fait que c'est comme ça? T'as-tu une idée, toi? Pourquoi qu'on est toujours propulsé à consommer plus? Qu'importe, dès qu'il y a une énergie, paf, on va en faire un gain.
Ben, c'est l'humain qui est comme ça. Là. C'est socialement, on est créé pour utiliser les ressources qui ne sont présentes. Donc,
il n'y a pas de bonne réponse, mais ce que ça me dit dans ce temps-là, c'est que si c'est l'humain qui serait comme ça, que quand il y a une possibilité de faire. D'atteindre un gain quelconque, on le fait, c'est là que je me dis, hey, ça prend des structures, c'est là que ça prend des politiques, c'est là que ça prend un gouvernement, une gouvernance qui va faire en sorte qu'on va s'imposer des restrictions. Parce qu'individuellement, on est tout un peu gourmand. C'est ça que j'en... Est-ce qu'on peut dire que ça fait du sens?
Ce que je rajouterais à ça, c'est que rarement on est capable d'avoir une vision globale. T'sais, dans notre petit chez nous, quand on fait nos trucs, on se dit, ah, c'est pas vraiment grave si je fais un petit peu plus de ci, ou si je consomme un peu plus de ça. Tu sais, on voit pas l'effet cumulatif de tous les individus. Je pense que c'est rare que à tous les jours, on est complètement transcendé par une vision mondiale de tout ce qu'on fait, tu sais.
Parce qu'il y a des pays, entre autres, qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre ou qui réduisent, je pense à la France, entre autres, qu'on utilise en exemple. Non, il me semble que je l'ai vu comme étant un exemple, quoi, qui avait réussi à réduire leur... Et on parlait du fameux découplage. Je ne sais pas pour ces auditeurs, ça, après, c'est quoi le découplage? Là, c'est l'idée de dire, on va faire en sorte qu'on va produire, on va continuer à produire des énergies, mais au final, ils vont de moins en moins émettre de CO2 et ils vont même être, ils seront plus associés l'une à l'autre directement. Fait que ça va faire en sorte qu'on va pouvoir produire plein d'énergie puis il n'y aura pas autant de GES émis par rapport à ça. Mais ce que j'en ai compris, c'est que certains pays réussissent mieux que d'autres. Peut-être que je me trompe avec la France, là, mais... Mais au final, quand on regarde de manière globale, mondiale, ça ne se produit pas. Puis au niveau de la rapidité à laquelle il faut faire les choses, puis là, je reviendrai peut-être à toi là, pour parler de GES, Jacob. Est-ce que la rapidité à laquelle on doit faire face pour réduire nos gaz à effet de serre, est-ce qu'elle est... De quel niveau tu la définirais, mettons? Parce qu'on peut dire qu'il faut réduire, mais c'est quoi les proportions? À quel point il faut réduire vite, mettons?
Bien... En fait, il faut réduire extrêmement vite. Ce qui était mis de l'avant par Jean-Marc Jancovici, un des éminents écologistes en France,
ouais.
Il disait qu'il faut avoir la réduction de 9% qu'on a eue pendant la pandémie, réduction de 9% des gaz à effet de serre mondialement, il faut l'avoir à chaque année jusqu'en 2050.
Exact. C'est ce que j'ai dit.
C'est, en d'autres termes, les engagements, compris les pays aux différentes COP, ça nous donnerait, d'ici 2030, 5,3% de diminution de gaz à effet de serre d'ici 2019, alors que ce qu'on a besoin, c'est un 43%. 5,3-43. C'est énorme, la différence. Puis, c'est pas terminé, là. En 2030, il faut continuer de réduire jusqu'en 2050, puis il faut se rendre à zéro émission. Puis, réduire ces émissions, c'est aussi de réduire l'énergie qu'on consomme.
Parce qu'il y a une association directe, là.
Mm-hmm. Oui, justement, je voulais revenir à ça, puis... Parenthèse, ça pourrait peut-être être ajusté au montage, là, mais pour le découplage, en fait, c'est qu'on estime qu'on peut dissocier la croissance du PIB, donc le niveau de production et de création de richesses, de l'augmentation des GES. Donc, c'est pas
L'énergie c'est versus... Pas
mettons, la production d'énergie versus la production de GES.
Erreur de débutant. C'est notre première émission. Je pense qu'on a le droit de faire une petite erreur comme ça. Là. Mais effectivement, merci de me corriger, Héloïse. C'est que pour moi, j'avais fait la déduction que la croissance économique, généralement, quand, c'est ça que Jean Covici dit, c'est quand on regarde la croissance économique, elle est directement souvent associée aux énergies. Alors, j'ai fait un petit raccourci qui était trop rapide, effectivement. Merci, Héloïse. C'est que c'est pas simplement de dissocier l'énergie de DGS, mais de dissocier l'ensemble de la croissance économique qui est liée au PIB. Là. Je pense que ça mettrait une émission complète pour parler qu'est-ce que la croissance économique.
Oui, exactement. Puis, c'est ça. Donc, ce qui cloche avec le raisonnement du découplage, c'est qu'historiquement, comme tu l'as dit, ça n'a jamais été possible parce que toute augmentation de la production mondiale a entraîné une augmentation de l'extraction de matières premières. Oui, là, tu sais, même aujourd'hui, on se dit, on a une économie dématérialisée à cause des ordinateurs et tout, mais tout ça, ça demande de l'énergie, ça demande des métaux rares, etc., de la silice, toutes sortes de trucs. Donc voilà, c'est ça. Donc on sait que l'extraction de matières premières implique des déplacements, de la machinerie, des énergies généralement plus polluantes. On va pas conduire des camions à énergie solaire. Donc toute augmentation de la production va consommer de l'énergie et c'est lié aux émissions de GES.
Si je peux me permettre de continuer sur la réduction de l'énergie, la réduction de la consommation d'énergie qui est nécessaire, ça semble peut-être pas pour les auditeurs une perspective très intéressante parce que réduire l'énergie qu'on consomme, on peut le traduire en moins rénover notre maison, acheter de la nourriture qui est moins transformée, acheter moins de viande, des choses comme ça.
Ne pas avoir de voiture.
Oui, c'est beaucoup de choses. C'est... moins se déplacer, donc les gens qui sont nés en France puis qui se sont installés au Québec, ben c'est plus difficile là, si on veut consommer moins d'énergie, mais le voyage jusqu'en France, on le fait moins souvent. Donc, c'est pas une perspective intéressante, mais il faut se dire que l'autre option, c'est une augmentation de la température sur la Terre. Puis si on s'imagine un 3 degrés d'ici 2100, ben, c'est un recul de l'espérance de vie, c'est un recul de la qualité de vie. Puis, dans l'excellent livre que je suis en train de lire, « Je veux une meilleure catastrophe », je fais la traduction libre, une des personnes qui est rencontrée dans ce livre-là, il va dire, d'ici 2150, on pourrait avoir une capacité de survie, mais la Terre pourrait nourrir et faire vivre seulement 2 milliards de personnes. On s'enligne vers le 9 milliards. Là. Il faudrait... La population, d'une quelconque façon, se rendrait à 2 milliards si on continue avec nos méthodes actuelles.
On dresse ensemble un portrait assez catastrophique de... Que je dirais une espèce de conte de fées qu'on s'est raconté ou qu'on se raconte beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas... Ce qui est intéressant, en tout cas, moi, ce que je trouve, ma source d'espoir, c'est que c'est nous qui l'avons quelque part créé, cette réalité-là. Elle n'est pas arrivée comme ça sans qu'on y mette vraiment du nôtre. Alors, il y a toujours cette espèce d'idée qu'on pourrait défaire ce qu'on a fait. Mais l'enjeu, c'est comment on va y arriver à se collectivement se priver de bien-être, souvent matériel, parce que les GES, les énergies... C'est beaucoup en lien avec du matériel qui, au final, est-ce que c'est vraiment ça qui nous rend profondément heureux? Moi, je pense que ça...
Mais je pense que c'est un discours qui, certainement, doit commencer à faire son chemin dans les esprits des habitants de l'Occident. Mais c'est un discours qui est difficile à avaler pour toutes les personnes actuellement qui n'ont jamais goûté aux retombées de toute la richesse créée par le capitalisme, à toute la modernité. Puis ça peut mener justement à parler de justice climatique. Donc justement, tu sais, il y a beaucoup de pays, justement, au COP, qui ont un discours, ben nous aussi, on veut pouvoir avoir la chance de se développer comme vous, les pays occidentaux. C'est vous qui polluez de toute manière. Nous, on contribue pour presque rien. On aimerait ça pouvoir se développer pour améliorer notre qualité de vie, parce qu'effectivement, ça a un lien avec la qualité de vie. Puis, si je peux juste boucler sur le principe de justice climatique, parce que c'est peut-être pas tous les auditeurs qui sont au courant de ce que c'est. Il y a, entre autres, le fait que les régions du monde qui sont responsables de la plupart des émissions de GES, ici on comprend l'Occident et les grands pays producteurs, là, comme, comme la Chine. Donc, ceux qui sont responsables de la plupart des émissions de GES et de la perte du vivant sont ceux qui sont les moins vulnérables au changement climatique et à tous ces effets néfastes, là, entre autres la perte de biodiversité. Donc, voilà, on parle des pays occidentalisés principalement. Puis, au contraire, là, les régions qui sont les plus vulnérables au changement climatique, qui sont actuellement en train de vivre des enjeux phénoménaux d'inondations, de sécheresses et de propagation de maladies qui n'existaient pas, sont ceux qui, historiquement, ont le moins contribué aux émissions de GES, ben, à l'augmentation des GES, hein, au changement climatique. Donc, on parle principalement d'Afrique et de l'Asie.
Tu voulais acheter quelque chose, Jacob?
Oui, un petit éditorial. J'ai pas été fouillé dans les recherches sur la communication, mais de parler de l'Occident comme un endroit qui est plus en sécurité que le reste du monde, ça peut donner l'impression aux individus qui vivent ici qu'on est protégé de ça. Puis que, ben, finalement, ce que je dis, là, le 2 milliards en 2150, ben, c'est même pas mes petits-enfants, c'est plus loin que ça encore, donc c'est peut-être pas grave. Peut-être que je peux continuer, je vais en profiter pendant qu'on peut consommer, puis on s'en fout pour le reste. Alors que c'est pas vrai qu'on est à... on est protégé des feux de forêt, des sécheresses, on les vit déjà en 2024.
On avait plus en hiver, là.
C'est ça, exactement.
Oui, ben, puis en plus de ça, tu sais, étant au bac en politique, c'est sûr que j'ai un regard des fois un peu différent sur les enjeux environnementaux. Mais c'est sûr que, tu sais, on s'imagine, ah, ces régions-là, OK, vont être affectées, mais nous autres, on va être corrects. Non, d'abord pour ce que Jacob a dit, mais aussi parce qu'il y a des mouvements de population. Les problèmes de changement climatique vont également amener énormément d'insécurité alimentaire, d'augmentation des conflits, de déplacement de population qui, comme on le voit en Italie, en Grèce, en France, commence à y avoir une montée de l'extrême droite qui se braque contre les vagues de migrants qui arrivent en Europe, qui cherchent justement une meilleure sécurité. Il va y avoir ça, il va y avoir cette dynamique-là où est-ce qu'il va y avoir énormément d'instabilité politique, très, très probablement des guerres, des conflits. Donc, on n'est absolument pas à l'abri. On est des régions privilégiées que les gens vont chercher.
Si je peux me permettre un petit commentaire.
Vas-y, Jacob, t'es là pour ça.
Les écologistes disent souvent qu'on va être obligé de faire des actions pour l'environnement parce que les problèmes climatiques vont arriver, la déplétion des ressources va arriver. Un des exemples que tu me fais penser en parlant de migration, ben, c'est la transition vers de la nourriture plus végétale. Si on a la population québécoise qui double d'ici 2050, disons, on va avoir besoin d'utiliser nos terres où on cultive du soya en ce moment. On va les utiliser, on va se nourrir de ce soya-là parce que en ce moment, on peut se permettre de donner ça au bétail, aux vaches.
Oui, c'est ça. C'est qu'il va falloir revoir aussi comment on consomme actuellement effectivement, comme tu dis, la plupart du soya qui pousse au Canada, ça va au bétail pour nourrir toutes nos petites personnes qui adorent manger du bon petit bœuf. Puis, il va falloir... Tu sais, c'est sûr que... Je me souviens plus des statistiques, mais essentiellement, c'est sûr que du bétail, ça mange beaucoup plus de soya qu'un humain.
C'est certain. On lit à toutes les sauces cette réflexion-là. Notre alimentation est directement reliée, je pense, à une grande proportion des émissions de GES et aussi de l'utilisation de territoires qui pourraient être utilisés à d'autres sources, comme juste simplement laisser pousser les forêts pour qu'elles puissent venir contribuer à réduire les gaz à effet de serre. Je disais même récemment que quand on regarde le niveau de production des petites fermes, souvent agrobiologiques ou autres, sont beaucoup plus productives que des méga entreprises agricoles qui,
de monoculture
et autres. Alors, il y a un terrain là-dedans à aller exploiter assurément pour réduire les gaz à effet de serre puis améliorer notre...
Ben, non seulement ça, mais si je peux juste reboucler sur un des sujets quand même importants de cet épisode-ci, la biodiversité, c'est sûr que... Ça me fait rire un peu dans ma barbe que j'ai pas. À chaque fois que quelqu'un dit « Ah, moi, je suis végane, donc je fais pas de mal aux animaux », ben la culture de soya, de tout... va entraîner nécessairement le dérangement d'écosystèmes, que ce soit l'écosystème dans le sol, des micro-insectes, des champignons. Donc, tu sais, il y a pas moyen de se nourrir sans impact sur le vivant non plus.
Ce qu'on dit là, c'est sûr que ça peut nous faire comme un mec quoi, là. On n'arrête pas d'écrire ce qui va mal. Puis effectivement, tu parlais des conflits peut-être qu'il y a à venir dans le temps avec ça ou des guerres. C'est sûr qu'on a de quoi s'inquiéter par rapport à ce qui s'en vient. Par contre, on est quand même des êtres très intelligents puis qui ont une capacité fou d'innover, de réfléchir ensemble pour trouver des solutions. C'est juste que là, on concentre tout ça souvent sur la croissance économique. Nos gouvernements, mettons, là, ils veulent absolument financer des programmes d'études qui sont liés à des secteurs de pointe qui vont aller vers les technologies et autres, mais toute nouvelle technologie vient avec une extraction de ressources pour venir instaurer ces nouvelles technologies. Là, je pense à on est rendu à la 4G qui s'installe, là, la 5G. 5G, c'est ça?
5G.
Chaque nouvelle grande technologie vient faire en sorte qu'il y a beaucoup d'extraction de ressources. Puis les mines, c'est faramineux à quel point que... Veux-tu en parler, Jacques?
Ben oui, je peux
t'en parler. Parce que les mines sur la biodiversité, c'est quand même majeur.
Oui, puis l'extraction de métaux a doublé en seulement 20 ans. Puis ça va pas s'arrêter, là. Selon les études, ça pourrait augmenter de 5 à 10 fois d'ici 2050. En fait, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui dit ça. Mm-hmm. Donc, c'est assez réputé.
Ben, en fait...
On a un discours de « acheter donc des voitures électriques, c'est bon pour l'environnement ». Ouais!
Je disais aussi récemment que si on fait vraiment toute la transformation qu'on doit faire en termes d'énergétique et autres, là, mais ça va devoir extraire des ressources comme jamais on en a extrait dans l'histoire de l'humanité. En fait, autant, je pense, comme on en a fait. C'est sûr que j'avais dit, dans les 30 prochaines années, on risque d'extraire autant. Puis c'est vraiment une pression puis un stress énorme qu'on impose à notre maison, en fait, notre terre. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, j'avais comme envie d'introduire un peu d'espoir parce que là, j'ai pas juste envie que... On reste sur ce sujet.
Les auditeurs pleurent.
J'ai compris. Même moi, des fois, je trouve ça un peu intense de parler de tout ça parce que moi, au final, je dis déjà ça au fur et à mesure. Mais là, de shooter ça comme ça, des fois, surtout quand que ça ne te tente pas d'entendre ça, c'est difficile. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que si on décide d'investir un peu plus notre créativité et nos qualités humaines dans comment on va faire pour vivre avec ce qu'on a et ce qu'on peut avoir pour être pour s'inscrire de manière plus équilibrée avec les réalités de la biodiversité, je pense qu'on on doit être la meilleure espèce pour le réussir. Il faut comme des structures. Je ne sais pas si ça vous est venu des fois l'idée de dire révolution, mais pourquoi?
Ben oui, puis j'aime le fait que tu aies dit, tu sais, on est une espèce très intelligente, on est la meilleure espèce pour, tu sais, repenser ça. Il me semble qu'on est capable de créativité, d'innovation, mais justement, je pense que il faut analyser exactement ce que tu dis, c'est il faut qu'on replace notre espèce dans le règne complet du vivant. C'est-à-dire, on s'est toujours imaginé qu'on était très bon, très intelligent et tout ça, mais il y a sûrement des formes d'intelligence qu'on ne comprend pas parce qu'on a 5 sens, on a, oui, la technologie, mais il y a des choses qu'on observe qu'on n'est pas capable d'interpréter, mais il y a une intelligence puis il y a une culture naturelle dans tout ce qui vit, ou même dans le non-vivant. Tu sais, on peut dire, une rivière, c'est composé d'eau, de roches, d'algues. Oui, les algues, ça fait partie du... du domaine du vivant, selon nos critères de biologie qu'on s'est auto-proclamés comme espèce. Mais tu sais, une rivière comme telle, c'est vivant. Tu sais, c'est un écosystème au complet, ça interagit. Il y a une culture. Tu vas aller voir une rivière au Yukon, ça ne sera pas la même chose qu'au Québec. Tu vas aller voir une rivière en Inde, ça ne sera pas la même chose qu'au Brésil. Il y a des cultures dans le monde du vivant qui sont autres qu'humaines. Il faut arrêter d'imaginer qu'on est centraux. On est vraiment comme les détenteurs de unique là, de l'innovation, de l'intelligence. C'est, je pense qu'il y a quelque chose à revoir là-dedans. Puis ça fait partie de la solution, je pense.
C'est intéressant ce que tu dis. Moi, je suis sûr que mon angle était au niveau plus de comment faire technologiquement, structurellement parlant, politiquement parlant, je ne sais quoi, mais je ne peux pas m'empêcher de penser aux communautés autochtones dans ce que tu dis, Héloïse, qui disent que leur identité est liée au territoire. Ça ne vient pas de n'importe où. Le territoire vient te définir. Et nous, c'est sûr que nous, devant nos écrans, devant notre matérialité qui nous entoure, notre territoire, c'est quoi? C'est quoi notre identité de territoire? À Sherbrooke, qu'est-ce que ça représente être Sherbrooke dans tout ce béton-là, derrière tous mes écrans-là? C'est sûr que mon identité va être moins là, mais si on n'aurait pas, on ne se serait pas embourbé de tout ce matériel-là, peut-être qu'on vivrait plus cette espèce de relation-là qu'on entend beaucoup des Autochtones.
Mm-hmm. Ouais, je pense qu'effectivement, il y a eu au fil du temps une énorme perte de sensibilité, de sens et d'intelligence. On n'est plus capable de lire le vent, on n'est plus capable de lire un paysage, on n'est plus capable de ressentir. On a perdu notre odorat, notre goût. Il y a énormément de choses qu'on a perdues parce qu'on n'est plus dans le monde matériel. On est dans un monde très, très matériel dans le sens qu'on achète beaucoup de choses et de cossins. Mm. Mais le vrai monde, là, le monde physique qui nous permet de vivre, qu'on le veuille ou non, ben, on ne sait plus. On est comme des boules de chair qui n'a plus de dieux, d'oreilles, puis d'odorat. On est comme juste là. Mm. Puis on est comme tout nu devant ça.
Jacob, est-ce que le fait que tu es allé justement faire de l'agriculture récemment, il n'y a pas cette idée-là de vouloir retrouver du vivant concret dans ta vie?
Oui. C'est sûr que ça me fait du bien d'avoir les mains dans la terre puis de pouvoir vérifier moi-même, est-ce qu'il y a assez d'eau pour cette plante-là? Est-ce que j'en prends bien soin? Ah, c'est la terre est sèche. Mais aussi de sentir un fruit ou un légume. Ah, est-ce que c'est périmé ou c'est encore bon? Est-ce que je peux me nourrir de ça? De se reconnecter avec des choses primitives, comme on pourrait le dire, mm-hmm. à vraiment notre nature humaine, notre nature vivante, de ce qui nous entoure, puis ce qui nous donne de la vie.
Vous êtes deux personnes que je définirais qui se nourrissent dans d'autres choses au niveau de leur nourriture vitale et principale que du matériel. Est-ce que je me trompe?
Non, clairement pas.
En effet.
Il y a quand même des sources d'espoir de se dire que si collectivement on se branchait sur quelque chose qui était moins associé à notre bonheur matériel, que on pourrait quelque part se dire « Ah ben l'aventure humaine, elle est vraiment difficile. » On s'entend ce qu'on a dit puis ce qu'on a à faire est vraiment rushant. Mais au final, il y a de quoi de beau, là. Non? Toi aussi, là, l'agriculture, c'est quelque chose qui est proche de ta vie. Quand tu es proche de la nature ou de la forêt, il y a quelque chose que tout, ouais. Qui est une richesse quand même, non?
Ben, moi, c'est surtout à travers le vélo là, que j'ai beaucoup découvert ça. C'est, puis j'ai écouté énormément de podcasts par rapport au vélo aussi. Fait qu'on dirait que ça m'a comme inspirée dans mes mots. Mais vraiment, c'est de reconnecter avec mes sens, entre autres. Là, c'est de recommencer à ressentir. Tu sais, quand tu es dans ta voiture, tu sens pas le vent. Tu n'entends pas les bruits environnants. Tu sens pas la vitesse. Tout est absorbé, tu sais. Tout est absorbé parce que tu as un siège confortable, tu as des amortisseurs, etc. À vélo, tu as le vent en face, tu as la température qui t'entoure, tu as les éléments autour de toi. Tu peux pas être ailleurs que dans le moment présent. Et c'est comme si mon cerveau, il est occupé à lire toutes les informations sensorielles. Puis ça, c'est vraiment puissant. Ça fait partie, je pense, un peu de... ça a été beaucoup théorisé, là, ce qu'on appelle le flow. Je ne sais pas c'est quoi en français, là, mais comme une espèce de... c'est un sentiment vraiment puissant qu'on peut ressentir quand on joue de la musique, quand on fait un sport, etc. C'est vraiment comme tout s'aligne en même temps, puis on est absolument dans le moment présent, très concentré, puis tout est comme... Tout coule facilement. Fait que c'est ça que je ressens.
Attends, d'éviter à ajouter quelque chose, Jacob? Non. Moi, ce que ça m'interpelle, c'est que je l'explique encore hier à mes enfants à quel point que l'humain, on s'est conditionné. Tu sais, juste l'exemple du cellulaire. À toutes les fois qu'on a une notification, là, on est conditionné à toutes les fois, un peu comme le chien de Pavlov qui bavait à toutes les fois qu'il entendait sa cloche parce qu'on y amenait de la bouffe à toutes les fois que la cloche a sonné. Puis là, il n'y avait plus de bouffe, mais là, il bavait quand même. On s'est tellement conditionné au monde matériel d'aujourd'hui avec notre cellulaire et autres qu'on sent qu'il y a comme un manque quand on le vit pas, on n'en profite pas, mais au final, peut-être que le manque qu'on a est ailleurs, mais qui est plus. Il est moins rapide et direct qu'une notification. Je me trompe?
Tu te trompes pas. En effet, je pense que ça se fait assez rapidement. Tu sais, ça prend pas un an pour réussir à se déconnecter de cette addiction à la dopamine qui est le cellulaire. Fait que je pense que c'est
est-ce
possible.
Est-ce que tu as passé par là?
Oui.
Oh, ok, je ne savais pas.
Ben, on retombe dedans rapidement aussi.
Ouais.
Mm-hmm.
Mais ouais. Ça se fait sans sortir. un cellulaire qui brise et ne pas se racheter de cellulaire tout de suite. Ça fait extrêmement du bien.
Mais si je peux faire un peu du pouce sur ce que tu dis, en fait, tu sais, là, on prend l'analogie du téléphone, mais je pense qu'il y a tellement de choses comme ça qu'il faut vraiment... Tu sais, ça prend un effort, là, vraiment, de se remettre en question, de repousser ses propres limites, tu sais, de se dire, ben, est-ce que je peux vivre avec, comme, deux T-shirts, une paire de pantalons? Est-ce que je peux vivre avec... pas d'électricité. Mais tu sais, là, c'est des exemples quand même assez extrêmes, mais je pense que, en tout cas, moi, personnellement, pour dealer avec l'éco-anxiété, pour dealer avec tout ce qui me fait sentir, disons, en dissonance cognitive, là, par rapport à mes valeurs, tu sais, sentir que, finalement, mes actions ne suivent pas mes ambitions, c'est vraiment de me donner des défis. Puis le vélo, c'était un défi, vraiment. C'était comme, ben là, tu sais, je suis là à pester contre le monde qui utilise la voiture solo, nanana. Mm. Mais moi, je fais quoi? Puis c'est puissant le sentiment de sentir que tu réussis un défi puis que tu te rapproches de ton idéal de vie, mais aussi que, en quelque part, tu es en train de montrer aux gens, hey, c'est possible, tu sais, de faire quelque chose de différent. Puis à travers ça, je trouve qu'on rencontre des gens qui... eux aussi, ils sont dans cette dynamique-là où eux aussi sont rendus à une étape dans ce processus-là. Puis, ultimement, ça aide à construire des communautés aussi. Tu sais, il peut y avoir du positif, je pense, dans l'éco-anxiété. Là.
est-ce que tu dirais que ça te fait sentir plus en vie quand tu fais ça?
Absolument. Absolument. C'est vraiment... Parce que, tu sais, relever des défis personnels, tu sais, il y en a pour qui c'est comme avoir une promotion à la job, puis c'est ça, mais... Ultimement, moi, de me réapproprier mes sens, de me réapproprier ma puissance de vie, comme indépendante d'une société que je considère qui n'est pas du tout viable, ça me fait vibrer, ça me fait capoter de me dire « Hey, je suis capable de vivre différemment, puis je suis capable de montrer que c'est possible. »
Merci. Jacob, toi, y a-t-il des moments dans ta vie où y a-t-il des processus que tu as vécu qui t'ont justement amené à réaliser que peut-être que ton bonheur ou ton bien-être en tant qu'humain était peut-être pas autant dans ce cas, en tout cas des publicités ou que le monde matériel nous amène à imaginer que tu as comme rencontré quelque chose d'autre ailleurs qui te permettrait de dire « Ah, mais tu sais, si collectivement on va là-dedans, il me semble qu'il y a de quoi, là. »
Oui. Avant d'aller... sur la ferme d'autosuffisance, sur la jardin d'autosuffisance que j'ai parlé au lac Saint-Jean l'été dernier, je sentais vraiment le besoin de reconnecter avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi.
Mm-hmm.
Puis ça m'a tellement fait du bien de passer cet été-là, de profiter du moment présent, puis de me reconnecter à la terre, mais de me reconnecter aux gens surtout.
Mm.
C'est pas acheter des nouvelles affaires, c'est j'achetais rien, j'étais logé, nourri. OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, je me sers de mon corps puis je travaille physiquement. Puis...
Est-ce que tu t'es senti accueilli parmi ces gens-là?
Vraiment.
Ouais.
Puis j'étais un ami parce que j'ai décidé d'aller là pour 5 mois. Donc, je n'étais pas n'importe quel bénévole qui reste là un mois.
Mm-hmm.
J'étais le bénévole OG, original gangster en français.
En français.
On va pas traduire.
Le
mais...
gangster original.
Okay. Du bio.
Ben, c'est ça. Moi, j'étais l'ami de la famille, puis ouais. Je pouvais garder les enfants, puis je pouvais... Tu sais, fait que je me sentais vraiment dans la famille, puis se sentir dans une famille qui a les mêmes valeurs que toi... Puis qui aspire à un monde meilleur comme toi, ça fait du bien.
C'est intéressant, tu amènes vers les valeurs. Si on avait à bâtir un monde souhaitable, c'est quoi les valeurs que vous metteriez là-dedans ou que vous aimeriez qui nous unissent en tant qu'humains ou même en tant qu'humains envers le reste du vivant? Y aurait-il des valeurs que vous avez? C'est sûr, cette valeur-là, il ne faut pas l'échapper.
L'ouverture.
Ouais, moi, je dirais genre douceur, empathie, bienveillance. Genre, pour moi, je les mets comme un peu tous ensemble parce que c'est de l'ouverture, mais c'est aussi, une fois que tu es ouvert, comment tu reçois les informations, tu sais. Je trouve que c'est quand
la
même...
La patience aussi, parce que ça rentre aussi là-dedans. parce que j'ai interagi avec des étudiants étrangers à l'Université de Sherbrooke, puis ils n'ont pas les mêmes référents, mais il faut prendre le temps de leur offrir de l'empathie, de leur offrir de notre patience pour qu'ils puissent comprendre dans quel monde on vit ici.
On peut-tu inventer une valeur qui est liée au fait de mettre en priorité justement de prendre le temps? Ça serait quoi la valeur? Parce que on est tellement là, aujourd'hui dans la performance, l'accélération, le faux que on est pris là-dedans, mais au final, on peut-tu vraiment vivre ce que vous dites là en termes de présence, d'ouverture, puis de temps quand on est aussi pressé que ça?
Bien, c'est sûr que moi, étant une fervente adhérente de la décroissance, je dirais que décroissance ne peut pas aller sans lenteur et ralentissement. Là. Il faut clairement revoir, oui, nos modes de consommation, mais pourquoi on consomme, puis à quelle vitesse on consomme, là, tu sais, c'est... tu sais, même, j'ai toujours mon dilemme, là, j'adore lire, j'adore apprendre des nouvelles informations, mais des fois, ça m'accapare tellement l'esprit que je prends pas le temps, je me permets pas de juste être assise sur mon sofa à fixer le mur. Puis, ça prendrait plus de monde qui fait ça, tu sais. J'ai vécu au Brésil, puis, tu sais, des fois, tu te promènes, puis j'ai aussi été en voyage au Nicaragua... quand j'étais plus jeune, pendant 3 semaines, puis tu sais, tu vois les gens, ce qu'ils font le soir, avant d'aller se coucher, c'est être assis sur leur patio, puis jaser, puis regarder ce qui se passe dans la rue, et commenter sur le trafic, sur les l'oiseau.
Ils regardent pas la nouvelle télésérie, là, dans ce temps-là, là?
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de telenovelas, oui.
Non, mais c'est un peu une blague, dans le sens que nous, on a toujours l'impression peut-être de manquer quelque chose.
Mais c'est ça, cette fameuse FOMO, là, qui est un nouveau terme pour ceux qui sont...
Oh, je le connais pas.
Fear of missing out.
FOMO.
La peur FOMO. De manquer quelque chose.
Oui, oh, en français.
Et ça vend ça.
Mais oui, mais moi, je sais, tu sais, étant... très curieuse intellectuellement. Ouais. Tu sais, je me dis, mais c'est quoi qu'il y a de mal de consommer des informations? C'est quoi qu'il y a de mal de lire un autre livre, de ça? Mais attends, mais il faut ralentir aussi. À un moment donné, il faut comme prendre le temps d'être physiquement présent, pas juste dans le monde des idées. Je pense que ça, c'est fondamental aussi dans notre connexion au vivant, tu sais.
J'ai envie de vous demander une question difficile.
Vas-y.
Ouais. Quand on s'arrête, là, des fois, il y a comme des choses qui montent en dedans. T'sais, quand on décide d'arrêter, souvent, ça vient comme avec un lot d'émotions qu'on n'a pas écoutées, qu'on a enfouies. Est-ce que c'est possible de dire que, oui, faut aller vers un monde qui est plus lent, qui est moins dans le matériel et autres, mais si on fait ça, est-ce qu'on doit acquérir le fait que ça va venir avec des émotions, que peut-être que sur le coup, là, je serais curieux de vous entendre si vous l'avez vécu, comment vous l'avez vécu, c'est pas évident, mais que ça nous amène vers quelque chose qui est peut-être de la bonne nourriture. Est-ce que vous avez déjà vécu ça?
Oui. Oui.
Toi, Jacob?
Oui, certainement. Prendre conscience de... faire face à, aux problèmes, aux enjeux climatiques, aux enjeux de biodiversité, de... J'ai juste le mot en anglais, « grieve ».
Le deuil.
Faire le deuil. Mm.
Ouais.
De s'arrêter, puis au lieu d'aller vite, puis d'oublier ces enjeux-là, parce que on est dans le travail, puis il faut que ça avance. Mais là, on s'arrête, puis on fait le deuil. OK, au revoir tel territoire. Au revoir les températures raisonnables durant l'été. Au revoir.
Ça serait d'accueillir aussi la tristesse des fois. Là. Parce que le deuil, c'est aussi de la tristesse. Puis c'est pas tout le monde. Je n'aimerais pas certaines personnes. Mais c'est pas tout le monde qui a les habiletés à se dire « OK, mais je vais vivre la tristesse. » Fait que j'ouvre juste cette porte-là en me disant que peut-être aussi qu'il faudrait être plus réaliste quand on dit qu'on parle de décroissance, qu'on parle de choses en disant « OK, on va pas le faire si on s'accueille pas. » Est-ce que c'est un mot que tu avais utilisé, l'accueil?
Bienveillance, empathie, oui.
Peut-être que ça serait des valeurs, puis une recette intéressante de dire « OK, mais si on le fait collectivement, on peut-tu aussi faire le choix de prendre le temps de s'accueillir dans ce qu'on va vivre? » Puis ça, on peut pas le faire tout seul.
Mm-hmm.
Oui.
Ça prend d'autres personnes pour nous accueillir dans ce qu'on vit. Tout seul, c'est rough. Vous avez déjà vécu
absolument.
Ça,
j'imagine? Absolument. On parle énormément du lien entre changement climatique et crise de la santé mentale. On le voit avec les burn-out. On le voit, je pense qu'on le sent là, dans la société, qu'il y a comme une espèce d'épuisement. Puis les services de santé mentale, même au privé, c'est difficile de trouver des psys qui ont des places. Je pense que plus que jamais, ça va être important de prendre soin, puis il va falloir qu'il y ait des ressources pour ça. Là.
Vas-y.
Prendre le temps, c'est pas juste tout seul, en effet. Mmh. C'est être ensemble, puis prendre le temps d'accepter les silences, puis de réfléchir autour d'une table.
Mmh. Avec un bon pain.
Oui.
Mais c'est vrai, ça, ça fait partie des choses. Effectivement, tu sais, quand je prends le temps de m'arrêter puis que je me dis, bon, mais qu'est-ce que je fais devant tout ça? Tu sais, moi, individuellement, je peux pas changer la société. Je peux pas changer le cours des événements. Je peux pas aller sauver les oiseaux qui meurent par millions, là. Mm. Mais tu sais, la seule affaire que j'ai comme humaine, c'est... notre côté social. Tu sais, on est une espèce qui a besoin des autres pour vivre, pour survivre. Puis, tu sais, j'ai beau me dire, mais ça me fait vraiment du bien de sentir que je peux évoluer en parallèle d'une société, mais ça reste qu'il faut que je trouve une société alternative avec qui vivre. Puis ça c'est aussi, ça aide à garder sa vivacité, son envie de vivre, de connecter, de partager, puis d'avoir un endroit où est-ce que je vais être accueillie si je dis « Hey, aujourd'hui, là, sérieux, je me sens comme dans une dystopie. » Puis sentir que ces mots-là résonnent chez les personnes à qui je leur dis.
C'est pour ça que vous avez acheté quelque chose.
Oh,
on peut se prendre des mains.
Là, on est vraiment cute. J'espère qu'on va passer en vidéo. C'est pour ça, Jacob, que je t'ai demandé si tu avais été bien accueilli là-bas, parce que j'essaie d'être concret, là. Mettons, là, quelqu'un, une famille ou des individus qui sont, dans leur quotidien, pris avec le besoin de payer leur hypothèque, leur dette, de maintenir leur niveau de vie, parce que s'ils ne travaillent pas autant, mais ils ne pourront pas continuer à payer toute leur marge de crédit et autres, et le temps presse, ils vont chercher... Même moi, j'ai une famille. Ils vont chercher les enfants. Si on dit à ces gens-là, là, il faut décroître, il faut arrêter ça, quelque part, est-ce qu'on peut... leur faire une invitation en leur disant « Ouais, mais regarde, si tu réussis puis si tu décides de vivre ce chemin-là qui va tranquillement, à tes moyens, te libérer un peu plus du matériel, les gens, quelque part, qui sont dans ce mouvement-là, moi en étant un, on est souvent des gens accueillants. Ça se peut-tu? Que des fois, c'est comme un réseau à changer, mais qu'au final, on mange pas les autres. On n'est pas...
Absolument pas.
C'est des expériences que moi, j'ai souvent vécues.
Oui, tu peux te permettre de ralentir. On peut se permettre de ralentir.
Oui, ça nous fait des belles soirées.
Oui.
Ça nous fait du beau moment. Ah non, mais c'est vrai, parce que de quoi de souhaitable là-dedans? T'sais, moi, je voulais qu'on prenne le temps de jaser ça parce que je sais qu'on va venir à l'émission sur parler du souhaitable collectivement. Mais quelque part, concrètement, si je veux souhaiter un monde qui est beau, j'ai envie de le passer avec du monde qui vont m'accueillir, qui vont m'aimer, qui vont me dire les vraies choses. Que c'est pas juste mon beau char qui vont faire en sorte qu'ils vont m'apprécier, le fait que je vais aller au gros restaurant avec eux. Non, c'est des gens qui vont m'accueillir, m'écouter, quand ils vont être là, quand je vais en avoir besoin. C'est l'expérience que moi j'ai vécue, en tout cas, mais. Quel âge j'ai, là? 46 ans, là?
Oui, je pense que les gens avec qui j'ai vécu pendant l'été ont apprécié ma générosité, le temps que je leur offrais, parce que c'est certain, j'ai deux bras puis deux jambes, puis je suis capable de travailler sur la ferme, mais il y a aussi toutes les belles choses que je leur apportais, l'ouverture, les belles idées, les voyages que j'ai vécu, tout ça, mais ça les nourrissait, puis ils aimaient ça être en ma compagnie. Fait qu'on a vécu bien ensemble.
On essaie de passer à l'étape supérieure de qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter collectivement. Parce que là, c'est souvent la critique qu'on va se faire dire, c'est les beaux pelletés de nuages là, qui ont beau rêver, mais au final, c'est comment on fait ça? Toi, tu parlais de décroissance depuis tout à l'heure. Puis là, je trouve que c'est un sujet qui est de plus en plus pris au sérieux dans plusieurs médias. On commence à en parler. Il y a des conférences qui se donnent, en tout cas au Québec, qui ne se donnaient pas avant, qui attirent beaucoup plus de personnes. Il y avait Olivier Pinault récemment qui faisait un débat avec Yves-Marie Abraham à Montréal. Ils ont fait sale comble. Ils ont refusé des gens parce qu'ils voulaient... Pierre-Olivier Pinault parlait de sobriété. Et là, c'était versus Yves-Marie Abraham qui parlait de décroissance. Puis, on remplit les salles, là, littéralement, à parler de décroissance. La vidéo de Rad sur la décroissance, je pense que c'est une vidéo qui avait été le plus regardée. Là. Mm-hmm. Les gens s'intéressent au comment, mais est-ce que tu serais capable, je vais t'aider, on va s'aider, on va s'entraider là-dedans, de définir un souhaitable décroissant? Comment tu le définirais, toi? Là?
Oh mon Dieu! La décroissance. Bien, c'est sûr que, tu sais, ça passe par décroître énergétiquement, décroître dans comment on consomme, tu sais, puis mettons, au niveau individuel et même collectif, on peut se dire, moi, là, je suis convaincue que sur la planète, il y a déjà assez d'objets et de vêtements. Comme on pourrait se dire collectivement, on n'en produit plus, on achète juste ce qui existe déjà. Puis quand il n'y en aura plus, on y pensera en refaire. Mais comme, on peut, tu sais, genre, ça ferait partie de juste... En fait, décroître, ça peut être aussi de stabiliser, tu sais, de juste dire, ben comme, mettons là, je consommais 10 morceaux de vêtements par mois. Ben je peux consommer la même chose, je stabilise ma consommation, mais je la consomme autrement. Tu sais, ça peut être, je consomme 10 morceaux de vêtements que j'ai échangés avec des amis, ou que j'ai... donc, on a fait du troc, ou que j'ai acheté en friperie. Fait que ça, c'est comme le côté individuel. Mais, tu sais, décroître en société, il n'y a pas une bonne réponse. Il y en a beaucoup qui passent par le travail. Donc, de diminuer le temps de travail. Puis moi, personnellement, c'est par là que j'ai comme commencé à introduire la décroissance dans mon mode de vie. C'est, je décide que je vais moins travailler. Je vais avoir moins de ressources financières, ce qui va me forcer à chercher des pistes pour économiser. Donc là, c'est me dire, OK, mettons que j'avais un surplus de 500 $ par mois, ben là, je pouvais aller dans les restos, si c'est ça. Puis comme je travaillais beaucoup, j'avais pas nécessairement le temps de faire du pain, de cuisiner moi-même. Fait que, tu sais, on est là dans nos vies, 40 heures semaine, les enfants, si c'est ça. Pas le temps de cuisiner à soir, on achète de quoi de tout près, ça coûte 50$ pour deux personnes. Bien, décroître, travailler moins, ça veut dire j'ai moins d'argent pour le resto, mais par contre, j'ai plus de temps. J'ai plus de temps, puis je peux m'adonner à des activités qui vont me permettre d'être un peu plus autonome. Puis je pense qu'on a eu une parenthèse de ça durant la décroissance, durant la pandémie.
Beau lapsus.
Je vais reprendre ton idée de qualité, là, à moins que tu veuilles ajouter quelque chose, Jacob. Je vais reprendre ton idée de qualité, puis c'est un comment il s'appelle, qu'importe. Quand on présente la décroissance, c'est l'idée aussi de l'opposer à la croissance économique. Tout à l'heure, je disais que c'était lié au PIB, le produit intérieur brut. C'est pas compliqué, ça pourrait être très compliqué d'expliquer le produit intérieur brut, mais je vais le vulgariser assez à son minimum. C'est l'agitation économique, ce qu'on va vendre, ce qu'on va produire, qui va générer, on va calculer, puis on va voir, OK, bon, mais si on en a fait beaucoup dans une certaine mesure, on va dire, on va augmenter notre croissance économique. Mais c'est un indicateur qui ne mesure que le quantitatif, qui n'est pas du tout dans le qualitatif, parce qu'on pourrait se dire, on va produire énormément pour reconstruire nos villes qui sont détruites par des catastrophes climatiques ou je ne sais quoi. On va, les gens vont consommer des nouveaux climatiseurs pour les aider, puis la croissance économique continuera à monter. Mais est-ce que la qualité de vie montrerait? Non. Alors, je pense que c'est important dans ton discours de qualité de le ramener aussi au collectif, dans le sens où est-ce que, c'est souvent le discours des gens qui sont décroissancistes, est-ce qu'on peut le réfléchir collectivement, souhaitable, et de le voir en termes de qualité, puis arrêter de dire qu'on va croître uniquement quand on va produire et consommer plus. Non. On veut réfléchir ensemble qu'est-ce qui fait du sens pour nous. Et après ça, on va se donner des indicateurs qui vont nous permettre de dire, OK, on atteint-il ou non notre but, puis on va le mettre à la poubelle, on va l'accompagner d'autres choses, le produit intérieur brut. C'est souvent, en tout cas, moi, ce que j'entends collectivement qui peut m'aider à penser qu'il y aurait du sens à faire autrement qu'avec une croissance économique comme on la voit aujourd'hui.
Oui. Mais je pense aussi, c'est ça, ça passe par, quant à moi, ça passe aussi par le travail dans le sens où il faut se questionner sur... c'est quoi la valeur de mon travail, pas juste monétaire, pas qu'est-ce que tu crées comme richesse, mais qu'est-ce que tu crées comme souhaitable collectivement, tu sais. Est-ce que ma job de banquier a créé beaucoup de souhaitable? La réponse est non, pour ceux qui se questionnaient. Mais à ce propos, j'aimerais vraiment faire une petite suggestion de lecture absolument incroyable. Ça s'appelle « Bullshit Jobs » de David Graeber. Du petit bonbon.
Il nous resterait 5 minutes. J'aurais envie que le balado, c'est sur notre relation au vivant. Vous en avez parlé, vous l'avez évoqué à différentes manières, c'est ton vélo, les deux mains dans terre, Jacob. Est-ce que, si vous résumeriez, ce serait quoi, comment vous sentiriez, quelle importance que vous accordez ou comment vous sentez quand vous prenez soin du vivant, mettons? C'est quoi, quand vous avez cette posture-là et que vous le mettez en action, qu'est-ce que ça génère chez vous comme bien-être, comme réflexion?
Eh boy, je pense que la meilleure image dans mon cas, c'est comme, tu sais, quand il y a bien des nuages, puis il y a comme une petite percée de soleil. C'est comme le petit rayon de soleil qui arrive sur mon visage. On dirait que ça fait comme... Ça fait ça. Tu sais, par exemple, puis prendre soin du vivant, là, mon Dieu, on pourrait en parler longtemps aussi là, de qu'est-ce que ça veut dire, mais mettons que je résume pour moi, là, c'est m'y intéresser, puis me mettre disponible à ressentir, à voir, à observer. Fait que, tu sais, mettons, quand je suis dans un parc, là, puis je suis dans ma tête, tu sais, je suis en train de marcher, je m'en vais, je suis en déplacement, peu importe, tu sais, je suis occupée, là. Je suis dans ma tête, je vois pas l'extérieur. Mais là, des fois, il arrive là, que, il y a une petite mésange. Puis moi, j'adore les petites mésanges. Parce que, fait que je vois une petite mésange, puis là, pendant quelques secondes, là, j'ai l'impression qu'on se regarde. Puis, tu sais, je regarde réellement là, ses plumes. Je prends le temps de regarder. Puis là, j'ai l'impression que je prends soin du vivant parce que je suis en train de voir, est-ce que ça se peut qu'elle me dise quelque chose? Sans me le dire verbalement ou sonorement, là. Mais, tu sais, juste de prendre cette seconde-là, puis vraiment, là, le sentiment que ça fait sur mon cœur, c'est vraiment le petit rayon de soleil de comme, c'est ça, vivre, tu sais. Genre, ça éclipse toutes les sacoches, puis les chaussures, puis les pantalons, puis toutes les choses que tu peux vouloir.
Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont trouvé en forêt, ce que tu évoques là, hein, avec la pandémie. Toi, Jacob?
Est-ce que c'était des émotions positives que tu cherchais à...
Je cherche tes réponses, Jacob. Il n'y a pas de bonne réponse.
OK, parce que quand Loïse parlait de écouter l'oiseau, ce que ça fait monter en moi comme émotion, c'est la tristesse, puis de j'ai le goût de m'excuser à cet oiseau-là.
Je le ressens, ça aussi.
C'est des choses comme ça qui font monter mon éco-anxiété, mais c'est plus mon éco-tristesse. Puis je vis aussi des émotions positives dans la nature. dans la nature, puis aussi avec les gens. Je pense qu'il ne faut pas minimiser, même si on est dans un environnement urbain, on peut connecter avec les gens, puis c'est très naturel. C'est on est des êtres grégaires. Mm. Puis j'adore faire de l'improvisation. Et quand je fais de l'improvisation, je ressors de là énergisé. À chaque fois, on dit énergisé, mais
ouais.
inspiré, c'est comme si on avait partagé notre énergie, puis elle s'était multipliée, mais c'est... Je parle pas d'énergie, là, de charbon, puis c'est des choses comme ça. C'est juste l'énergie
J'espère,
humaine.
Jacob.
La motivation est plus là. Mm-hmm. On se sent plus connecté entre
ouais.
nous.
Ouais. C'est beau. En fait, ce que j'entends, Jacob, dans ta réponse, c'est que prendre soin du vivant, c'est aussi prendre soin de nous, qui est ouais. vivant.
Mm-hmm.
Et de trouver notre plaisir là-dedans même. Puis je trouve ça beau, je vais revenir sur ce que tu dis. Là. Moi aussi, je le vis beaucoup. Là. C'est plus, tu sais, il y a plein d'émotions maintenant. Il y a un dictionnaire des émotions liées à notre éco-anxiété. Tu parlais de solastalgie, tu m'avais texté ça tout à l'heure.
Le sentiment océanique aussi, c'en est un, mais ça, c'est positif. Là. C'est un sentiment justement de sentir qu'on appartient. Puis c'est l'immensité de tout ce qui nous lie. C'est un super beau terme qui existe aussi.
Moi, en tout cas, j'ai envie des moments, comme tu parles, Jacob, où est-ce que je regarde la nature, je fais comme... est-ce qu'il faut vraiment que je sois en deuil de toi? Puis je me rappelle, j'étais allé l'été passé, au printemps passé, en Beauce, puis je marchais, là, les vieilles forêts, là, des forêts, je capotais. J'étais ému, là, le lichen, c'était tellement beau. Puis là, paf, t'arrivais, une forêt avait été coupée. Mm. Mon cœur, là. Là, j'étais avec mes enfants, j'étais comme... Je ne savais pas comment dealer avec ces émotions-là tellement que ça venait. Puis là, j'étais comme, je suis où, moi? Mais ce qui me faisait du bien quand même, c'était de prendre la main à ma blonde puis de ne pas me sentir tout seul là-dedans. Peut-être que je me dis que prendre soin du vivant, c'est aussi de prendre soin de nos relations et de nous accueillir dans ce que ça nous fait vivre, d'être avec cette réalité du vivant-là qui est un peu maganée, mais...
Mais tu sais, pour nous, mettons, ça peut être un peu lourd de vivre avec ces émotions négative là, mais tu sais, mettons, je pense pas que collectivement ou même individuellement, ce soit négatif de ressentir cette tristesse-là parce que c'est légitime.
Mm.
On a le droit de se sentir comme ça, puis je pense que même si on n'a pas de moyens nécessairement de le communiquer, en tout cas, peut-être qu'il le ressente, là.
Ouais.
Mais tu sais, mettons, peut-être que le vivant est capable de ressentir qu'on est vraiment désolé puis que ça nous fait vraiment de la peine, mais tu sais, je pense qu'il faut accepter qu'on va les vivre. On va les vivre, ces émotions-là. Ça va être ça.
Oui. Mm. Ouais. Puis, quand on vit de l'éco-anxiété, ben, l'anxiété, c'est une motivation à agir, normalement.
Ouais.
L'émotion est faite pour ça. L'anxiété, le temps des hommes des cavernes, c'était « Oh, je me fais pourchasser par un tigre aux dents de sabre et je dois courir. » L'anxiété, maintenant, c'est « Oh, OK. » Il y a des forêts qui sont détruites à cause de mon mode de vie, ben, il faut que j'agisse, il faut que j'aille militer, il faut que je dérange le gouvernement pour qu'il comprenne que je veux pas un mode de vie comme ça, je veux pas qu'il m'oblige à vivre seulement ça. Le gouvernement, c'est juste une des sphères, là. Les entreprises vont aussi agir beaucoup là-dedans.
Avant de passer au remerciement, parce qu'on est à la fin de notre émission, est-ce que vous auriez un dernier petit mot à dire avant qu'on se quitte, tout le monde ensemble?
D'habitude, j'ai beaucoup de mots, mais là, je n'ai pas de mots.
Ben, je suggère aux gens qui sont éco-anxieux d'aller lire « Facing the Climate Emergency », en français « Faire face à l'urgence climatique
».
C'est un autre excellent livre avec « Je veux une meilleure catastrophe »,« I want a better catastrophe » de Andrew Boyd. Ouais.
Bien, je veux terminer en vous remerciant. En vous remerciant d'avoir été là, d'avoir relevé le défi de cette émission-là, puis d'être là, d'exister, je pense. Je vous aime, puis je suis vraiment content de savoir que vous faites partie de cette belle aventure humaine-là. Je tiens aussi à remercier, les gens ne l'ont pas remarqué, mais on était avec Alexandre Hamel aujourd'hui, qui faisait la caméra derrière nous.
Merci
Alexandre.
Merci.
Toujours ta magnifique présence. Et je remercie aussi mon ami Nan qui a fait un super beau logo, je pense que je pourrais dire, de l'émission Juste pour vivre. Je remercie tout le monde de nous avoir écoutés. Puis je vous dis à la prochaine. On va voir dans les prochaines émissions des gens qui vont aussi nous faire découvrir en détail un peu plus la nature des sommités dans le domaine que j'ai réussi à dénicher à l'Université de Sherbrooke. Je vous invite à nous écouter. À bientôt! J'espère que vous avez apprécié les échanges et les réflexions. Il me ferait vraiment plaisir de recevoir vos commentaires et suggestions pour que je puisse améliorer la qualité du balado. Vous pouvez me les communiquer via la page Facebook Juste pour vivre, mon LinkedIn ou sur Instagram. Profitez-en pour partager les entrevues que vous avez aimées et restez à l'affût. Une vingtaine d'épisodes sera mise en onde d'ici la fin de l'été. À bientôt!